Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs dans l'émission des Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des textes de la philosophie, des textes classiques de la philosophie. Alors comme nous l'avons dit, nous sommes dans une discussion avec Charles Péguy, qui n'est pas philosophe. Hein. Charles Péguy, c'est un grand écrivain, c'est un grand poète, ce n'est pas un philosophe, mais un peu à la manière de Camus, c'est quelqu'un qui est très proche de la philosophie, qui est travaillé par la philosophie, et nous abordons un texte difficile, qui est, bon, on l'a comparé à un tourbillon, à un fleuve impétueux, qui est la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Anthony Feneuil, qui est maître de conférence à l'université de Metz et un connaisseur à la fois de Bergson et de Péguy.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, on va reprendre la discussion sur cette note conjointe. Mais avant tout, Anthony Feneuil, vous pouvez nous dire ce que vous pensez du texte et notamment, par exemple, une petite question au passage. Il y a beaucoup de références très diverses. Par exemple, pourquoi sur une note qui apparemment, à voir le titre, parle de Descartes, on en arrive à parler, par exemple, de Polyeucte, cette pièce de Corneille?
Oui, alors il y a chez Péguy, qui est vraiment de ce point de vue-là, un auteur du XXe siècle. Hein. C'est pas du tout un auteur classique au sens historique du terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a compris que au XXe siècle, on peut plus écrire de la philosophie comme on en écrit au XVIIe, par exemple.
D'accord.
Hein, et que
Oui. Alors j'ai une surprise ouais. Parce que juste à un moment donné, il dit comment ne pas être classique. Alors le classicisme. C'est vraiment le XVIIe siècle, hein. C'est la langue de Descartes, le bon sens est la chose
Corneille.
Du monde, et de Corneille, hein, la mieux partagée. Là, quand on lit Descartes, on est en plein dans Corneille, quoi que, enfin, j'exagère, mais il y a une affinité dans cette langue classique. Alors, à la fois, il veut être classique, mais non classique. Il y a quelque chose de curieux, non, par rapport à ça?
Oui, mais chez Péguy, alors évidemment, il y a une admiration aussi infinie de Péguy pour l'âge classique, donc il y a vraiment pas de, c'est pas une critique du classicisme.
C'est pas une critique.
C'est simplement le constat que, et ça rejoint pour le coup le cœur du texte, le constat que le temps avance, ne se répète pas. On est un homme de son temps.
Oui.
Et donc, quand on écrit au début du XXe siècle, on peut avoir une admiration infinie pour Corneille, mais on peut pas répéter Corneille. Et quand on écrit au XXe siècle, on peut avoir une admiration infinie pour Descartes ou même pour Bergson, mais on peut pas répéter Descartes ou Bergson.
D'accord.
Donc, il s'agit d'écrire d'une manière qui puisse faire sentir ce qu'il a envie de dire. Et d'abord, voilà, il s'agit de pas lâcher ce qu'on disait la fois dernière. Il s'agit de pas lâcher l'intelligence, la construction conceptuelle propre à toute philosophie, celle que Descartes fait apparaître en majesté, on pourrait dire. Mais en même temps, il s'agit de montrer jusque dans l'écriture même le fait qu'à l'intérieur de cette rigueur, on peut toujours, il faut laisser la place à la réalité. Il faut laisser la surprise, l'ouverture. Et la surprise, elle passe par traiter des thèmes inattendus, parler de quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé que non au départ, etc. Mais pour parler toujours... pour traiter un problème philosophique très précis, mais simplement d'une manière qui fasse entendre...
De tourner autour de ce sujet pour peut-être mieux l'encercler, mieux le
exactement, et pour obliger aussi le lecteur à faire le travail lui-même, pour ne pas qu'on puisse considérer... lire Péguy, on pourrait dire, j'allais dire d'une seule oreille, mais d'un seul œil, c'est-à-dire le lire comme on lit le journal, justement.
Comme il disait lui-même, quoi, d'un œil tout fait.
Exactement, d'un œil tout fait. On est obligé d'être surpris. Le texte produit cette sensation de surprise. Il n'abandonne pas la rigueur intellectuelle, mais il ne donne pas l'illusion d'une avancée mécanique.
Et la surprise, l'émerveillement, c'est quand même le fond de la philosophie aussi. Bien sûr, c'est ce que dit Socrate, hein. Il n'y a pas de philosophie sans...
Et il n'y a pas de philosophie, ça c'est effectivement dans le Banquet de Platon, hein. Il n'y a pas de philosophie sans réflexion sur l'écriture philosophique. C'est-à-dire pour ça que Platon écrit des dialogues.
Oui.
Il n'y a pas de philosophie qui soit strictement la transmission d'un savoir d'un sujet à un autre.
C'est très important.
Voilà.
Ça, c'est très important.
Et on est obligé de réfléchir non seulement au contenu, mais aussi à la manière dont on fait passer ce contenu, parce que l'objectif, c'est pas de donner des informations à quelqu'un, c'est que celui qui lit ou celle qui lit
se mette en marche
et fasse le travail elle-même ou d'appropriation du texte.
Et ça c'est vrai, on l'a vu par exemple pendant les ateliers de philosophie, hein, on est avec des personnes qui sont débutantes, mais elles sont pas en confiance, et donc ce qu'elles voudraient, c'est un cours de philosophie. Alors véritablement, il peut pas y avoir de cours. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est ça la première leçon, puis la deuxième, puis la troisième, et on arriverait à devenir philosophe. C'est absolument impossible.
Et Peggy, de la même manière que Kierkegaard, hein, exactement, c'est le même mouvement philosophique, ou Nietzsche autrement, de la même manière, après des gens qui, comme Kant ou Hegel, sont allés, on pourrait dire, au bout de jusqu'on peut, de où on peut aller quand on fait de la philosophie, au sens où, justement, on veut transmettre une science. Quelque part, hein. On veut formuler absolument et donner la philosophie comme un package qui est à prendre ou à laisser. Mais après ça, quelque part, il n'y avait plus d'autre chose à faire que de réfléchir à la manière dont il fallait faire passer ce package, si on veut. Hein. Comment est-ce qu'on fait naître l'acte philosophique chez le lecteur et pas seulement comment est-ce qu'on lui transmet le savoir absolu.
Oui. C'est marrant, ça fait penser un peu à l'improvisation en musique, quoi. Est-ce que l'improvisation, ça s'apprend? C'est peut-être un peu quelque part quelque chose qui peut être un peu lié à ça. Enfin, ça me fait penser à
oui,
ça.
Oui, dans le sens où finalement, ce qu'on cherche dans l'improvisation, c'est pas seulement la beauté des notes. Enfin, c'est l'acte lui-même. Il y a quelque chose. La beauté naît de l'acte lui-même, pas seulement du fait qu'il y a un agencement correct, on pourrait dire, qui est agréable à l'oreille.
Ouais.
Alors, une question qui va se poser par rapport à notre temps, justement, c'est la part du rapport au divin, à quelque chose qui est donné à l'homme de l'extérieur. Hein. Donc, je pense que ça travaille le texte de Peggy, et il oppose la mort matérielle et la mort spirituelle. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que dit Peggy, c'est que celui qui se mure dans son habitude, qui se cloisonne, n'est pas mort matériellement, physiquement, mais il est mort spirituellement. Hein, c'est ça dont il s'agit. Et Anne Bonneau, bon, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parmi nous, posait la question du rapport de Peggy au socialisme et comment ça s'est articulé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages par rapport à cette question qui doit être quand même assez délicate et qui doit poser à un être humain un certain déchirement, c'est-à-dire est-ce que j'espère un mieux-être ici-bas? Est-ce qu'il faut l'espérer pour une autre vie, avec tous les risques que ça peut avoir, autant risque d'être récupéré ici-bas par des institutions que risque de s'être trompé ou d'imaginer ce qui n'est pas.
Mais je crois que cette question, oui, elle est un petit peu délicate et y a, les interprètes de Peggy se déchirent un peu sur la manière dont ça se passe. Peggy, lui, a toujours nié le fait qu'il y ait une évolution. En tout cas, une conversion entre le début de sa vie et la fin, c'est-à-dire la période socialiste à proprement parler et la période chrétienne. C'est-à-dire, il a dit, ça va en ligne droite.
D'accord.
Il n'y a pas de point de rebroussement, pas de conversion. Et la raison, je pense, à ça, c'est que pour Peggy, il y a en réalité pas de différence entre l'espérance ici-bas ou l'espérance au-delà. D'ailleurs, il ne parle pas d'espérance pour l'au-delà, Peggy, en réalité. Il parle d'espérance tout court. Parce que pour Peggy, ce qui fait le propre du christianisme, c'est pas l'au-delà, ou c'est pas au-delà qu'on l'entende au sens temporel, ce qui vient après, ou qu'on l'entende au sens spatial, ce qu'il y a au-dessus. Hein, l'au-delà, pour Peggy, ça l'intéresse pas parce que c'est déjà plus. Ce qui l'intéresse, c'est au contraire les aspérités, les rugosités du temps.
Mais là, j'ai du mal à comprendre comment on peut concevoir une espérance si elle n'est pas dans quelque chose qui dépasse le monde tel qu'il est.
Le fini, tu veux dire.
Voilà. C'est-à-dire, il y a bien quelque chose qui n'est pas devant nous, qui doit nous faire espérer.
Non, pour Peggy, c'est le contraire. C'est l'espérance qui est cette chose qui n'est pas devant nous et qui change tout. C'est-à-dire, ce qu'il y a de proprement chrétien, c'est l'espérance. Ça, c'est pas l'espérance en quelque chose. Parce que si on espère en quelque chose et que c'est ce quelque chose qui nous donne des raisons d'espérer, on a déjà transformé l'espérance en une attente presque probabiliste ou calculatrice de j'ai un au-delà que je connais et j'attends ça. Non, c'est le contraire.
L'espérance est un terme de mathématiques. Hein. On parle de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Ouais, c'est rigolo.
Et pour Peggy, l'espérance, c'est ça le miracle. Et c'est ça le contenu même du christianisme. C'est le fait que le monde est retourné, ou notre expérience du monde est retournée par l'espérance. C'est-à-dire même quand on n'a rien à attendre, et on n'a rien à attendre pour Peggy, en fait. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas de projet précis qu'il faudrait mettre en œuvre pour ici-bas ou pour l'au-delà. La distinction ne vaut pas. Par contre, ce qu'il y a d'incroyable pour Peggy dans le christianisme, c'est l'idée que dans ce monde où effectivement le monde va plutôt de mal en pis hein, pour Peggy globalement.
On avait parlé de décréation. Hein.
Voilà. Et en partie de notre faute parce qu'on ne cesse de s'éloigner de la réalité et de la lisser, etc. Et puis le capitalisme aussi le capitalisme c'est la forme sociale de cette tendance individuelle intellectuelle qui est de lisser la réalité, hein, l'argent lisse tout au même niveau. Et ben oui. Malgré dans cette descente vers le pire, malgré tout, le christianisme donne de l'espoir. Mais cet espoir-là, c'est pas l'espoir en quelque chose. C'est le fait que, au sein même de la réalité actuelle, les événements justement sont pas prévisibles.
Toi, Sylvain, souvent quand on parle de ça, tu dis oui, en fait, tu peux prouver la chose, tu peux pas prouver la chose, mais tu peux pas prouver le contraire en parlant de cette question-là.
La question laquelle
de la transcendance ou l'existence de quelque chose qui dépasse
le Dieu, par exemple, oui.
Oui, ah. Bon, la question de Dieu.
Par exemple.
Par exemple. Et justement, est-ce que ce que dit Peggy et ce que dit Anthony aussi, est-ce que justement, c'est pas une autre voie par rapport à la question de savoir si je peux prouver ou pas prouver.
Alors oui, moi je suis très intéressé. Enfin, je trouve ça très très bien et quelque part c'est une beauté là dans ce que tu disais concernant la position de Peggy sur l'espérance, le fait que quelque part on n'est pas à avoir un marchandage avec un dieu, hein, quel qu'il soit. Enfin, si on accepte l'existence de Dieu, ça je trouve ça très bien et quelque part je pense que ça peut élever. Ça peut élever la personne sans avoir une attente avec une rétribution quelconque, si tu veux. Il y a un geste de beauté qui rejoint à la limite même le platonisme et Socrate et ces gens-là, c'est-à-dire que c'est la beauté du geste qui peut élever l'âme et c'est pas un commerce où on va attendre parce qu'on s'est bien comporté. D'ailleurs, il en parle un petit peu, Peggy, dans son texte, à un moment donné, alors peut-être sous une forme un peu différente, mais quand il parle des honnêtes gens qui ne mouillent pas à la grâce.
Oui.
Qu'est-ce qu'attendent ces gens-là, tu vois, là, avec cette idée de morale aussi, ou les gens qui suivent la morale au pied de la lettre, on va dire.
Est-ce que c'est pas l'être humain, justement, qui est fait comme ça? L'être humain, il calcule. Enfin, toi, tu viens...
Peut-être que non, justement. Peut-être qu'il faut pas calculer, en fait.
Mais justement, oui, peut-être. Mais est-ce que ce n'est pas le calcul dans tous les sens du terme qui, aujourd'hui, justement, gouverne? Parce que moi, le reproche que je ferais sur le mot de capitalisme, c'est que capitalisme, c'est un système économique bon, qui a en plus plein de formes différentes, qui évolue avec le temps. Le capitalisme du 21e siècle, c'est sûrement pas le même qu'au début, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire plutôt que capitalisme primo-industrialisme et deuxio, au fond, j'ai envie de dire cartésianisme, quoi, parce que est-ce que ça ne revient pas à peu près le fond des choses, est-ce que ce n'est pas le cartésianisme?
Alors,
et d'où une autre question que je vais poser, c'est-à-dire l'air de ne pas y toucher. On a l'impression que la note sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, au fond, elle ne parle pas de Descartes. Mais moi, j'ai envie de dire si elle parle de Descartes du début à la fin, quelque part, parce que ce qui fait obstacle au fond, justement, à ce besoin de la grâce, à ce sentiment de détresse, et ainsi de suite, c'est de se dire, mais nous avons le cartésianisme, donc nous avons la raison, peut-être, qui pourra nous éclairer, nous donner la voie du salut. Est-ce que notre monde moderne n'est pas dans ce mouvement-là, quoi?
Alors, cartésianisme, peut-être, mais pas Descartes. Pas de la manière dont en parle Peggy, puisqu'il est justement le plus grand mérite de Descartes, c'est de ne pas avoir été cartésien.
C'est pas mal, ça, oui.
Et qu'il a commencé par déclarer la guerre au désordre et que finalement, au final, son œuvre est tout aussi désordonnée que celle de n'importe quel philosophe.
D'accord, ça et c'est que, vrai, c'est tout à fait juste, oui.
C'est à la fois très fort dans l'intention, dans le point de départ, le fait que Descartes est un point de départ, Et en même temps, voilà, s'il avait été cartésien, quelque part, Descartes aurait été moins intéressant parce que il se serait répété, voilà. Mais donc c'est pas Descartes, c'est le cartésianisme. Et pourquoi est-ce que l'idée que Descartes fut un point de départ, hein, ce cavalier français qui est parti d'un bon pas. Pourquoi est-ce que ça s'oppose au destin de la modernité, si on veut, ou du capitalisme, ce que Peggy appelle le capitalisme? Parce que justement, le capitalisme, alors, moi, je serais pas d'accord pour tout de suite passer à la question de l'industrialisation, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il appelle capitalisme, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. C'est plutôt une tendance historique que la description précise d'un modèle économique, hein, ce que Peggy appelle capitalisme.
C'est ça.
Et il y a vraiment l'idée dans le capitalisme de capitaliser. Capitaliser au sens faire des amasser en vue de faire des provisions pour quelque chose qui va pour un avenir meilleur.
Exact.
Et ça, c'est le capitalisme pour Peggy.
Mais c'est aussi même l'industrialisme.
Oui,
parce que
bien sûr.
Si j'amasse, c'est justement que je n'ai pas à produire de façon patiente chacun de mes outils, chacun des choses que je vais manger. C'est parce que il y a la multiplication de tout. Et j'ai même envie de dire, il y a la multiplication des munitions, de la mitrailleuse, dont Peggy va faire tristement l'expérience sur le. C'est-à-dire, c'est ça. Dans Verdun, enfin dans la guerre de 14, il y a le début de la machine à tuer aussi, et il y a le début de cette mise à mort industrielle.
Mais on peut même aller plus loin. C'est l'industrialisme et c'est le socialisme aussi bien. Le socialisme politique, au sens, on construit aujourd'hui l'avenir radieux de demain.
C'est ça la difficulté.
C'est encore du capitalisme en un sens.
C'est
encore
toujours une promesse du lendemain.
Voilà, une promesse du lendemain et ne penser aujourd'hui qu'en fonction du capital de départ qu'on va pouvoir.
C'est ça.
Peggy dit la maxime du capitalisme dans ce texte dit c'est ne pas remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire travailler beaucoup aujourd'hui pour amasser et sacrifier aujourd'hui pour amasser pour demain. Mais ça du coup, ça veut dire n'envisager aujourd'hui que comme le passé de demain.
Oui.
Et donc, supprimer le présent.
On ne vit pas dans le présent.
Le aujourd'hui n'est vu que comme le passé de demain, et donc aujourd'hui est supprimé comme aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le texte, c'est un texte sur le présent. Et c'est le contraire de la maxime évangélique, que Peggy oppose à cette maxime de Benjamin Franklin, maxime du capitalisme, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Oui.
Il dit la maxime évangélique par excellence, c'est le lendemain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Qui est le contraire, c'est-à-dire, avant de prévoir demain, demande-toi ce qu'aujourd'hui a de spécifique en tant qu'aujourd'hui. Et il y a un changement entre aujourd'hui en tant qu'aujourd'hui et aujourd'hui comme hier de demain. C'est pas seulement la même chose, le même événement qui a simplement changé de date, mais le passage au passé a transformé la chose elle-même, la réalité. Hein? De même que le journal, qu'est-ce que c'est? C'est considéré aujourd'hui comme hier. Bon, c'est la même chose.
Et puis c'est un problème de mémoire aussi, le journal. Hein. Il en parle de la mémoire.
Chemin de pensée sur RCF.
Vous êtes avec les neveux de René. Nous reprenons la discussion avec Charles Peggy et son texte de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Et nous parlions de la mémoire. Et Sylvain va nous lire un extrait où il est question de Descartes, enfin de Bergson plutôt, et de la mémoire.
Eh bien, dans un système bergsonien, je ne dis pas dans le système bergsonien, cette mort matérielle, temporelle, normale et non irrégulière, essentielle pour ainsi dire et non accidentelle, régulière et non anormale, physiologique et non mécanique, cette mort usuelle de l'être, cette mort usagère est atteinte quand l'être matériel est plein de son habitude, plein de sa mémoire, plein du durcissement de son habitude et de sa mémoire. Quand tout l'être matériel est occupé par l'habitude, la mémoire, le durcissement. Quand toute la matière de l'être est occupée à l'habitude, à la mémoire, au durcissement. Quand il ne reste plus un atome de matière pour le nouveau qui est la vie.
Donc, comment éclairer ce passage-là? Et nous débattions aussi de la question du capitalisme ou de l'industrialisme, du socialisme, du cartésianisme. Alors ça fait beaucoup de ismes.
Ouais.
Voilà, donc il faut quand même essayer d'être prudent sur les ismes en général. Comment y voir clair dans tout ça? Et moi, la question que je voudrais poser qui me brûle, c'est est-ce qu'on peut encore entendre la voix de Peggy qui dit laisser au lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, donc à partir de la parole de l'évangile, à une époque où tout est organisé, mathématisé, algorithmisé, et où on a tendance à faire exactement le contraire. On prévoit ses vacances 6 mois, 1 an à l'avance.
Malheureusement.
Les billets d'avion, il faut les réserver parce que sinon ils deviennent trop chers. Les billets de train, c'est pareil. Comment faire, quoi? Comment, est-ce qu'il y a encore une chance pour surnager dans le monde dans lequel nous vivons?
Ben, je dirais, on doit d'autant plus l'entendre, hein, mais d'un autre côté, ce que dit Peggy, c'est que justement, l'entendre, c'est humainement impossible, hein.
L'entendre,
c'est ça. Cet appel à ne pas avoir à se soucier du lendemain, c'est humainement impossible. C'est pour ça qu'il y a l'espoir.
Oui.
L'espoir, c'est qu'on arrive à faire ça, mais c'est pas du tout évident et c'est pas quelque part, ça repose pas sur nous parce que si on transforme ne pas avoir souci du lendemain en projet.
Oui.
Ouais. Et ça, c'est bien. Je trouve c'est beau. Enfin, en fait, l'espérance, ça serait d'arriver à vivre dans le présent.
Oui, tout à fait. Mais en tout cas, de se laisser toucher par le présent. Mais simplement. Enfin, c'est ce que je dis. S'il y a un paradoxe là-dedans, si on transforme ça encore en projet, on a de nouveau refermé la mâchoire de l'intellect sur la réalité, quoi. On a refermé.
Et ça, c'est souvent le cas pour beaucoup de choses. Par exemple, ça me rappelle quand les personnes parlent de la méditation, ils disent, par exemple, ah bah, faut surtout pas dire, je dois réussir quelque chose, parce que sinon, on n'est plus dans l'attitude de méditation, voilà. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, il faut, le mot sera moche, mais je vais le lâcher quand même, il faut une méthode, parce qu'on va jamais y arriver si on ne se donne pas justement une sorte d'habitude ou un travail régulier pour arriver à se défaire justement de ce monde moderne qui nous dit « Ah mais t'as pas répondu à un tel, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas prévu ton prochain déplacement ». T'as pas... Comment se dépatouiller de tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas justement une espèce de rigueur extrême, finalement, dans notre monde moderne? Comment faire, quoi? Est-ce qu'il y a la moindre ouverture? Ou est-ce qu'au contraire, on est assailli de plus en plus?
C'est difficile.
Ouais. Pour Peggy, il n'y a pas de méthode, ça c'est clair. La méthode, c'est contradictoire avec ce dont il est question. Mais effectivement, il y a une attention. Il faut réussir à être attentif. Est-ce que... Si Peggy parle tant de l'espérance, c'est parce qu'il considère qu'il y a quelque chose comme de l'ordre du miracle. Hein. C'est de l'ordre du miracle, l'espérance. On n'a pas de raison d'espérer. Mais c'est justement ce qui fait que, malgré tout, il y a des coins par lesquels l'espérance s'introduit dans notre vie. Et il faut être suffisamment attentif à ces éclairs. Alors, mais ce que disait le texte tout à l'heure, c'est ce qui est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin d'espérer? Justement parce que c'est la marche normale du temps. Le temps, il passe du présent au passé. Mm-hmm. Passer du présent au passé, ça ne veut pas simplement dire avancer sur une ligne continue. Ça veut dire justement qu'entre le présent et le passé, il y a une forme de retournement complet de la réalité sur elle-même. Le temps, ce n'est pas une suite homogène de moments. C'est un retournement complet de la réalité sur elle-même quand elle passe du présent au passé. Et ce qu'on veut faire pour se tranquilliser, dit Peggy, pour s'anesthésier, pour pas s'embêter avec le présent qui est quand même lourd à porter, c'est considérer que le présent, finalement, ça n'est jamais que le passé de demain.
D'accord.
Donc, comme ça n'est jamais que le passé de demain...
Je porte pas ce que j'ai apporté au moment où je dois le porter.
Pourquoi s'embêter, puisque je m'embête pas avec hier.
Oui.
Donc, pourquoi m'embêter avec aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui est le hier de demain?
Oui.
Et comme ça, j'ai la paix.
C'est une capacité de projection, mais peut-être de mauvaise projection, parce qu'on se projette un peu trop dans le demain pour se décharger de ce fardeau dont Pascal a parlé à travers le divertissement. Mais là, je me projette dans le plan.
Et pour des bonnes raisons, paradoxalement, parce que Peggy dit à un moment, c'est vrai que dans le présent, on est injuste, par exemple, parce qu'on est aveugle sur tout un tas de choses, parce qu'on vit ce qu'on a à vivre et on est aveugle sur tout un tas de choses. Dans l'histoire, le but de l'historien, c'est d'être juste. Le passé, quand on évalue le passé, on est juste. Alors on se dit, pour être juste aujourd'hui, je vais considérer que je suis déjà demain et je vais comprendre aujourd'hui comme de l'histoire déjà. Je vais me mettre dans une posture d'historien sur aujourd'hui. Ou alors, je dis, comme dit Peggy, on attend un petit peu pour savoir ce qui se passe exactement aujourd'hui. On y verra plus clair dans quelques années quand on pourra faire l'histoire de l'événement. Mais sauf que là-dedans, il y a une illusion fondamentale et tragique, qui est que quand on fera l'histoire de l'événement, on n'aura plus ce qu'il y avait de plus décisif dans l'événement, à savoir le fait que c'était injuste. que chacun, qu'il ne pouvait y avoir que de l'injustice et qu'il y avait un choix à faire entre deux options qui étaient incompatibles.
Peggy, dans la note conjointe, là, dit bien qu'il ne croit pas à l'histoire. Hein.
C'est assez... L'histoire des historiens, c'est une de ses cibles privilégiées, justement pour ça, parce qu'on fait de l'histoire pour Peggy, pour se décharger de la vie.
Bon, bah, c'est
ça.
Cool.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. On est captivé par cette pensée parce qu'on voit bien que finalement, même si Peggy n'est pas lui-même un philosophe, il nous amène au cœur de la pensée philosophique. Voilà, donc on demandera à nos auditeurs et nos auditrices, on les invite plutôt à lire la note conjointe sur Monsieur Descartes et le cartésianisme. Et merci à vous, Anthony Feneuil, de nous avoir rejoints. Et puis on espère qu'on continuera la discussion pour la rentrée prochaine. Voilà.
Avec plaisir.
Merci.